Bonjour, bienvenue. Donc il nous manque Silène Edgar, on va commencer sans elle en espérant qu'elle va arriver puisque je l'ai vue passer tout à l'heure, donc elle ne devrait pas être très loin. Nous allons donc commencer à parler histoire, raconter des histoires, écrire sur l'histoire. La voilà qui arrive. On a dit que les professeurs étaient toujours les derniers. Voilà. On va lui faire copier des lignes.
Voilà. J'ai la feuille à carreaux déjà qui est prête.
Donc je vais commencer en présentant les auteurs. Donc à ma gauche, Franck Seigneur, qui a donc publié son premier roman qui s'appelle Samouraï 731, qui se déroule dans les Vosges. Et c'est un roman policier qui a recours à l'histoire d'une certaine façon. On verra comment. À côté, donc, Silène Edgar, qui est donc professeure, qui a écrit plusieurs romans pour adultes ou pour la jeunesse. On va s'intéresser particulièrement aux romans jeunesse. Donc, l'année dernière, il y a eu 14-14, un texte, un roman où il y avait un jeune homme de nos jours qui correspondait avec un autre jeune garçon en 1914. Aujourd'hui, on va s'intéresser à son tout dernier roman paru qui s'appelle Adèle et les noces de la reine Margot. À côté, donc Patrick Maxper, qui a lui aussi écrit de nombreux romans, notamment pour la jeunesse. On va s'intéresser aujourd'hui à son cycle qui compte 3 volumes et qui s'appelle Les héritiers de l'aube. Et tout au bout, Céline Landresi, qui a sorti donc une série qui actuellement compte 3 volumes. Le troisième vient de sortir aux éditions de L'Homme sans nom. Donc, on va parler donc histoire et de quelle façon les auteurs abordent l'histoire dans l'histoire avec un grand H dans leurs histoires, dans leur fiction. Je vais commencer par vous, Patrick Maxper. Vous avez choisi de faire voyager vos personnages d'une époque à l'autre, donc un groupe de personnages. Est-ce que vous voulez bien nous expliquer comment fonctionne cette série ?
Bien sûr. Bonjour. Bonjour tout le monde. Les héritiers de l'aube, donc, c'est une saga qui est basée sur le voyage temporel et la sorcellerie. Et pour la trilogie, évidemment, j'ai choisi des périodes qui m'intéressaient particulièrement. Pour le tome 1, je les ai envoyés pendant la guerre civile Armagnac-Bourguignon, donc en pleine guerre de 100 ans à Paris, ce qui, évidemment, vous en doutez, m'a demandé de sérieuses recherches sur le plan documentation. Il ne s'agissait pas d'être approximatif, de sorte qu'un érudit un jour vienne en dédicace et me dise « Ah non, monsieur, je suis désolé, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. » C'est toujours très vexant, donc on évite. Et dans le tome 2, je les envoie à San Francisco au moment du grand séisme de 1906, en expliquant, en donnant mes raisons de l'événement. C'est pas très joli hein, comme phrase, mais bon, on fera comme si, hein, tant pis. C'est du live hein, en même temps. Et dans le tome 3, je les envoie sous Louis XIV, pendant l'affaire des poisons. Donc j'ai perdu de vue la question, excuse-moi.
C'est pas grave.
Je suis bavard, et donc j'ai tendance
à formuler. À l'essentiel. Ouais, mais les personnages eux-mêmes viennent d'époques différentes.
Oui, totalement. Les personnages, c'est en partie l'originalité de cette trilogie, c'est qu'ils sont issus de 4 époques différentes, et donc on assiste à un choc culturel assez phénoménal entre Le Alex, qui est un jeune geek du XXIe siècle, un Australien. Laure, la brigande au grand cœur, copine de cartouche, qui vient du XVIIIe siècle. Tom, le petit anglais orphelin de l'East End du XIXe siècle. Et la quatrième héritière, qui s'appelle Alba, qui, elle, est une aristocrate espagnole du XVIIe siècle. Alors, comme vous imaginez, ils n'ont pas vraiment fait pour se comprendre, quoi. Et donc ces 4 personnages se retrouvent lancés à la poursuite d'une quête, d'une pierre enchantée, qui est un peu chelou, qui parle dans la tête des gens, tout ça. Ça me rappelle mes propres expériences, parfois, le dimanche matin en sortant de boîte. Mais moi, c'est à des poubelles que je parle, parce qu'il y a les pierres enchantées en sortie de boîte, il n'y en a pas beaucoup, malgré tout. Et donc, ils vont devoir récupérer cette pierre avant un démon fomoré. Les fomorés, donc, sont les forces du mal dans la mythologie celtique. Pardon. Et évidemment, bah, il veut s'approprier la pierre avant eux. Donc. Et toute l'intrigue repose là-dessus. Et pendant 3 tomes, donc, ils se baladent d'une époque à l'autre pour sauver le monde. Je sais, c'est pas très original, hein, mais il faut bien leur donner une raison.
Céline Landresi, vous aussi, votre série fonctionne de la même façon. Vous en avez un pour deux?
Oui, c'est bien.
Ouais, on fait micro partagé, mais c'est pas grave.
Il n'y a qu'un micro qu'on partage.
Vous aussi?
Non, il faut laisser le suspense.
Vous les faites voyager d'une période à l'autre. Donc, on commence par les guerres de religion. Ils ne m'écoutent pas.
Non,
pas du tout. Ils sont dispersés.
Ça se voit tant que ça. Désolée.
Donc, vous faites voyager vos personnages d'un tome à l'autre, d'une époque à une autre. Alors, quelles sont ces époques? Comment vous les avez choisies? Et pourquoi vous avez choisi, vous aussi, ce voyage, de faire voyager votre héroïne dans différentes périodes historiques?
Ben, en fait, c'est assez simple. Ça part comme je traite le mythe vampirique. Oui, vu, revu et re-revu. On est d'accord, mais j'essaye de l'aborder sous un angle plus mature. Et pour moi, l'immortalité, puisqu'en théorie ils sont immortels, ne peut pas se concevoir sur 10 ans. Donc à partir de là, j'ai décidé de les faire voyager dans le temps pour me confronter des personnalités et des âmes qui ont vécu très longtemps à l'évolution de notre monde. Et comme j'ai voulu le situer dans notre réalité historique pour que ça ait un côté plus prégnant, on va dire, dans la tête des gens finalement, puisque après tout, notre histoire est tellement riche. C'est pas forcément la peine d'aller chercher des midi à 14h pour inventer des histoires extraordinaires, puisque notre histoire, finalement, en regorge. Et mélanger ces deux trames, les coudre ensemble, pour moi, c'était un challenge, et c'était quelque chose qui me paraissait extrêmement intéressant. Et bon, le premier tome se situe donc au XVIe siècle, au moment des guerres de religion, sous Henri IV, juste à la signature de l'édit de Nantes, qui est donc une période assez tendue. Et un peu sanglante aussi. Et c'était pas un choix finalement délibéré. C'est plus la vision sur le long terme du scénario qui m'a amenée à reconsidérer le début de la saga dans cette période. J'étais pas forcément très chaude parce que le XVIe siècle et moi, on n'a pas grand-chose en commun. Mais bon, j'y suis allée quand même et ça m'a demandé des mois et des mois et des mois de recherche, exactement pour les mêmes raisons que mon voisin. J'avais pas tellement envie qu'on vienne me trouver en me disant mais... C'était pas ça la date de l'édit de Nantes. Donc,
c'est toujours un grand moment de solitude.
Oui, c'est un grand moment de solitude. Alors pour essayer d'éviter ça, j'ai pris la chose au sérieux. Du reste, de toute façon, je prends notre histoire très au sérieux, puisqu'à mon sens, elle nous apprend de grandes leçons sur l'existence. Et s'en souvenir, ça fait souvent du bien. C'est aussi pour ça que je me balade dans le temps, pour rappeler quelques petites leçons de l'histoire, notamment dans le dernier tome, le tome 3. Enfin, je crée les étapes. Le tome 2, c'est au XVIIIe siècle, pendant la Révolution. Et le tome 3, en 1943. Et là, je sais que voilà, c'est une période qui me tient particulièrement à cœur, parce que j'estime qu'on l'oublie beaucoup trop vite. On oublie beaucoup trop vite les horreurs qui ont été commises. Et quand je dis horreur, je suis gentille. On oublie, je pense, les répercussions dans toutes les strates de la vie des civils. Et c'est quelque chose sur lequel j'avais envie délibérément de m'apesantir. Donc je pense que le tome 3 est celui où l'histoire est vraiment un personnage à part entière. Dans les deux premiers, c'est plus ça reste un décor, puisque je ne suis pas historienne, je n'ai pas vertu à l'être. Mais bon, je traite le sujet avec, on va dire, respect. Par contre, le tome 3, oui, c'est un personnage. L'histoire est un personnage. Ça m'a demandé beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? C'est bon.
C'est bien, c'est bien. Six années de guerre, donc guerre de religion. Il y a un autre auteur ici présent aux Imaginales qui traite des guerres de religion, c'est Jean-Laurent Del Socorro. Je me dis, ça devient vraiment un sujet tendance, les guerres de religion. J'en ai lu 3 rien que pour préparer les Imaginales. C'est quelque chose.
Cool.
Donc vous aussi, c'est la période que vous avez choisie. Alors pourquoi vous avez choisi cette période précisément?
Je pense qu'il n'y a pas de hasard. Hein. Si on revient vers ces guerres de religion, c'est parce que c'est une façon de parler de celle qu'on vit. Moi, en jeunesse, de manière générale, j'utilise l'imaginaire, le fantastique ou l'anticipation pour parler d'aujourd'hui avec un détour. Et en particulier pour le jeune public, je trouvais ça intéressant de leur rappeler cette période qui est vue normalement en fin de cinquième, mais on connaît les programmes d'histoire qu'on n'a jamais le temps de finir. Et donc leur rappeler qu'on a connu une très longue guerre civile pour des questions religieuses et que ça peut sembler aberrant aujourd'hui quand on pense protestant catholique, ça l'est beaucoup moins quand on pense malheureusement aux événements récents. Et donc Adèle va débarquer en 1172 à travers un livre. Elle lit La Reine Margot de Dumas. Elle en rêve, elle se croit héroïne de ce livre-là, c'est un peu merveilleux. Et puis, elle rencontre un protestant, elle ne sait pas trop pourquoi elle ne pourrait pas le fréquenter. Jusqu'au moment où il y a la Saint-Barthélemy, ça devient bien plus qu'un livre, ça devient son histoire. Voilà.
Et les jeunes lecteurs, ça leur parle, cette période-là ?
Alors, on l'avait expérimenté avec 14-14, avec Paul Béorn. On avait envie, sur 14-14, de parler du centenaire parce que, évidemment avec les commémorations on leur en a parlé énormément et on s'était dit ça doit pas être simple pour eux d'aborder quelque chose qui est très loin d'eux. Nous on nous racontait ça, les grands-parents, les arrière-grands-parents, pour eux c'est plus difficile d'avoir cette passation de mémoire et ça leur a plu énormément. Donc je me suis dit bon bah on va tenter le coup avec la Saint-Barthélemy, ça fait encore beaucoup beaucoup plus là.
Vous êtes professeur d'histoire ?
Je suis professeur de français. Voilà. Et en effet, j'ai l'impression, d'après les retours que j'ai, que ça les intéresse. Que alors, c'est pas un cours d'histoire, c'est pas didactique, il y a pas tout. Et j'espère qu'ils vont aller un petit peu plus loin. Mais en tout cas, d'après les retours que j'ai, ça leur semble assez clair pour comprendre la situation et se dire qu'il y a encore beaucoup de choses à découvrir.
Et vous avez tenté de faire lire La Reine Margot à vos élèves ?
Non, pas du tout. C'est une façon de me moquer un petit peu du programme de 2009 qui va être encore changé. Mais ce n'est pas forcément plus mal parce que historiquement, si on remonte sur les 15 dernières années, en 2002, en fait, dans le programme d'éducation nationale, on pouvait travailler sur la littérature jeunesse. En 2009, de triste mémoire, on est revenu à quelque chose de beaucoup plus classique sans littérature jeunesse et avec imposer en quatrième un roman du 19e à lire complètement. Alors évidemment, je pense que c'est essentiel que la jeunesse lise les romans du 19e. À 13 ans, c'est très compliqué, c'est difficile, ça les dégoûte, ils n'ont plus envie après. Donc moi qui fonctionne sur cette période-là par extrait, j'avais un peu envie de moquer de ce professeur de français qui fait lire en 15 jours La Reine Margot à cette pauvre gamine qui n'aime pas lire. Et qui, c'est sûr, va avoir du mal à lire autre chose après.
Franck Seigneur, alors vous, la période de départ, c'est plus simple parce que ça commence de nos jours, en fait, où des crimes vont être découverts. Un dans les Vosges et un à Paris. Et c'est à partir de cette enquête que l'histoire surgit. Alors je vous confie le soin de raconter parce que je ne veux pas en raconter trop, je veux pas. Donc je préfère que ce soit vous qui racontiez ce que vous voulez.
D'accord. Mais bonjour à tous et merci d'être là. Donc moi je réside à 20 km d'ici, à Bruyères. Et donc, au bout de quelques années de résidence là-bas, j'ai découvert un terreau fantastique pour un auteur. C'est-à-dire que se sont déroulés des faits de guerre absolument extraordinaires et pourtant très méconnus. Donc, quand je dis extraordinaire, c'est extraordinaire et exotique, puisque Bruyères a été libéré par, donc bien sûr, un régiment américain, mais un régiment américain essentiellement composé de soldats japonais et hawaïens. On en parle un petit peu en ce moment parce que James Ellroy vient de sortir un roman, donc Perfidia je crois, qui traite du sujet de l'internement des Japonais donc aux États-Unis juste après l'attaque de Pearl Harbor. Mais je ne suis pas mécontent d'avoir damé le pion à James Ellroy et à d'autres sur ce sujet puisque le bouquin est sorti avant et donc j'ai traité aussi de ce sujet. Et moi, j'ai traité en plus du versant européen, puisque ces jeunes gars sont venus combattre ici, donc à Bruyères, la fameuse bataille de Bruyères-Bifontaine. Alors je dis fameuse bataille parce que c'est une bataille qui, même si c'est très méconnu dans les Vosges, pourquoi je ne sais pas, mais enfin bon, voilà, on y travaille. On travaille en fait depuis peu de temps à la mémoire et à la pérennité de ces événements. Donc ce sont des faits qui sont très connus aux États-Unis puisque c'est l'une des 10 plus grandes batailles de l'histoire militaire américaine. Alors quand on connaît les implications des Américains dans tous les conflits, on mesure un peu la proportion, quoi. Donc c'est une des 10 plus grandes batailles et le régiment en question, donc, est composé à 90%, 95% d'Hawaïens et Japonais, est encore aujourd'hui le régiment le plus décoré de toute l'histoire militaire américaine. Donc les mecs, les militaires les plus décorés des États-Unis, ce ne sont pas des Américains de souche, ce sont des Japonais et des Hawaïens. Donc ça, c'était... Alors moi, j'habite au pied d'un massif où se sont déroulés des combats terribles. Alors quand j'ai découvert ça, c'était un bonus pour moi, puisqu'en plus, bon, j'étais assez féru aussi d'histoire du Japon par la pratique des arts martiaux, etc. Je m'étais pas mal intéressé à ça. Et donc, dans ce roman, j'ai mélangé... Alors c'est une action contemporaine, c'est vraiment... Ça se lit comme un polar, un thriller. Et il y a cet arrière-plan historique qui concerne le Japon, donc ses soldats japonais. Mais je ne suis pas manichéen avec les Japonais, je n'en ai pas fait que des héros, puisque en ayant fouillé l'histoire du Japon, j'ai aussi épluché la partie moins noble du Japon, c'est-à-dire toutes les exactions qu'ils ont commises en Chine vers la moitié du 19e jusqu'aux années 40. Et là, j'ai trouvé des faits d'histoire, mais vraiment fantastiques, quoi. C'est-à-dire, ça confine presque à la science-fiction. Et ben, la matière était là. Après, il n'y avait plus qu'à relier un peu toutes ces époques. Donc, pour la première, en plus, on n'était pas très loin de la féodalité, donc des derniers samouraïs. Et j'avais mes ingrédients, qui étaient quand même très différents les uns des autres. Et il a fallu, trouver un liant, une sauce, quoi, pour tout ça et de la saveur. Et comme disaient Céline et Patrick, ben, c'est beaucoup de recherches historiques. Parce que, comme eux, j'ai toujours le souci de ne pas me faire avoir par un historien très pointu dans son domaine et qui va venir me dire eh, « mais ça, monsieur ». Donc, ça va. Donc, c'est beaucoup de recherches. Alors, bon, je ne me suis pas énormément déplacé. Je ne suis pas allé jusqu'au Japon. Mais maintenant, on a Internet. Donc, beaucoup de recherches, des déplacements locaux, puisqu'on a un cimetière militaire américain avec un quartier aussi pour les Japonais. Et puis des déplacements, bon, je parle aussi beaucoup d'armes, de katanas, de sabres, donc des déplacements auprès de collectionneurs, des démontages d'armes, assez loin dans le détail. Ce qui ne m'a pas empêché d'écrire une ou deux petites conneries sur des sujets qui ne sont pas lourds de conséquences, puisque ça n'a absolument rien à voir avec l'histoire avec un grand H, mais néanmoins, voilà, on n'est pas exempt d'erreur, quoi.
Liberté de l'auteur.
Non, non, là, c'est... Non, je peux pas.
Non, vraiment pas.
C'est irréfutable.
Et donc, ce qu'il y avait à la base de votre démarche, de votre envie d'écrire, puisque c'est votre premier roman, c'était l'histoire ?
Alors, je vais corriger un petit peu. C'est pas le premier roman. On va dire que c'est le premier vrai roman. Voilà, j'avais commis un essai il y a une dizaine d'années, un petit peu plus, avec un roman qui s'appelle Réminiscence, qui avait été édité régionalement. Bon, celui-ci a été édité nationalement. Puis en plus, il a reçu un prix du Polar historique. Mais déjà, pour le premier, j'avais un arrière-plan historique qui, lui, était se concentrait sur la mythologie germanique. Donc, la façon dont les nazis ont utilisé tous les symboles de la chevalerie. Donc, je remontais là jusqu'au chevalier teutonique. Et là, c'est un polar fantastique qui est ancré dans la réalité d'aujourd'hui, dans le contemporain. Mais il y a un switch vers le fantastique. Mais ceci dit, oui, l'histoire avec un grand H, c'est un élément moteur pour moi parce que je rejoins ce que disait Céline. Il n'y a pas besoin non plus d'inventer quand on voit la richesse de l'histoire, l'histoire de France, l'histoire du monde. Et moi, ce que j'aime, c'est soulever les pages les plus sombres de cette histoire, voire les plus fantastiques, et puis en faire un ingrédient.
Mais vous avez dû aussi vous plier ou bien utiliser certains codes du roman policier et du polar aussi.
Oui, alors ceux-là, c'est des codes... Bon, moi, j'ai pas de... Je suis venu à l'écriture un peu par hasard, donc j'ai pas de méthode, j'ai très peu de culture littéraire, Bon, ça me vient naturellement. Et moi, quand j'ai un polar, pour moi, c'est une grosse mécanique. Je vois ça vraiment comme un peu comme l'intérieur d'une horloge. Le moindre rouage qu'on va déplacer là, ça va avoir des répercussions là, etc. Et autant dans mon entourage, on peut souvent se plaindre de mes problèmes de mémoire, à savoir l'emploi du temps de ma compagne, par exemple, j'oublie des petits rendez-vous, etc. Autant quand j'écris un polar, c'est vrai que j'ai en permanence en tête, c'est comme si j'avais un écran devant moi et je sais exactement, si je parle d'un événement là, je sais que ça risque d'avoir des répercussions là, etc. Et je retrouve tout ça. Donc là, oui, là, il y a une mécanique, quoi. Mais vous dire, ça se fait comme ça, naturellement, quoi.
Céline Landrezy, vous aussi, vous écrivez dans un genre bien particulier, qui est celui de la bitlit, qui a ses codes là bien marqués aussi. Qu'est-ce que vous en faites de ces codes ?
Rien, je les fous à la poubelle, globalement. La bitlit et moi, ça fait deux. Hein. La bitlit, c'est juste un nom de collection à la base.
Elle
n'a
pas aimé.
Ça s'est vu. Non, en fait, bitlit, c'est juste un nom de collection au départ. C'est un nom qui a été finalement utilisé, dévoyé, etc. pour regrouper tout ce qu'il y avait dans cette collection, finalement. Soit beaucoup d'urban fantasy, un peu de fantastique, mais c'est vrai, majoritairement l'urban fantasy. Moi, je me réclame de la littérature gothique du 18-19e siècle. Ça n'a rien à voir avec la bitlit.
C'était une question un peu provocante, hein, parce que moi aussi, quand j'ai vu bitlit, j'ai fait la même tête que vous.
Ma question. Bon, ça va, je suis tranquillisée.
Quand j'ai lu, je me suis dit, mais ça n'a rien à voir.
Ouais, c'est ce que vous me disiez hier. Oui, et donc, effectivement, non, ça n'a rien à voir. Après, ce n'est qu'un label. Ce n'est qu'un nom de collection. Je conçois qu'il soit difficile, ce livre, à positionner, puisqu'il est à la croisée de plusieurs genres littéraires. Il y a un vrai côté romanesque, un côté historique, évidemment. La littérature vampirique, de nos jours, on ne la connaît plus, donc on ne sait plus la ranger. Donc forcément, il est difficile à placer. Ce n'est pas de la fantasy, ce n'est pas de la bitlit. On va en faire quoi de ce truc ? Donc finalement, ça a fini en bitlit. Bon, mais c'est pas grave, hein, dans l'absolu. Mais bon, et c'était quoi la question au début ?
Non, vous avez répondu. Vous avez dit que vous jetiez la bitlit.
Oui, alors moi, les codes, je m'en contre...
Fiche.
Ça s'est vu, là. Bon, c'est pas grave. Je m'en contre fiche totalement, oui. Je pense que le mythe vampirique, finalement, il est dans la conscience collective. C'est un mythe universel. Il existe depuis la nuit des temps. Il a porté des dizaines et des dizaines de noms. Il a existé sur des dizaines de continents. Donc, pourquoi répondre à quel code à ce moment-là? Il faudrait alors donc se fixer sur un continent, un mythe? Non, pas trop, non. Donc j'ai mon interprétation personnelle que je sors finalement, je crois, oui, de notre conscience collective. C'est à ça que je réponds, uniquement. Après, les codes, en même temps, je le porte un peu sur moi, que les codes, j'en ai un peu rien à... Hein. Ouais.
Patrick Masper, est-ce qu'on peut dire que c'est un voyage dans le temps, votre série Oui, je peux le dire ça sans que vous vous fâchiez.
Vous pouvez.
Et donc quand je reviens un petit peu à ce choix de période, en fait, est-ce que vous avez envie de faire découvrir aux jeunes lecteurs des périodes? Parce que cette guerre de 100 ans, quand même, c'est complexe. C'est une des périodes les plus complexes de l'histoire de France. La guerre de 100 ans, les Armagnacs et les Bourguignons.
Oui, totalement. Totalement.
Ce tremblement de terre de San Francisco, il n'est pas très, très connu chez nous, de nous.
Oui et non. Alors chez nous, peut-être un peu moins que dans le monde anglo-saxon. Mais... Il y a quand même pas mal de personnes qui en ont entendu parler, je pense. Oui.
Alors, est-ce que c'est pas plus difficile, justement, de proposer ce sujet inconnu au lecteur ?
Je ne crois pas. Je pense qu'après, tout dépend du traitement. Et il faut quand même bien reconnaître que j'écris prodigieusement bien. Donc,
Il a raison.
Non, je pense que... Non, plaisanterie mise à part, je pense qu'effectivement, ça dépend du traitement, de la manière d'amener le sujet... Après, c'est peut-être pas plus mal aussi de porter à la connaissance des lectrices et lecteurs justement quelque chose dont ils n'ont pas automatiquement entendu parler il y a 15 jours. Quoi. Mais voilà, c'est court comme réponse, hein, du coup.
Est-ce qu'il y a une volonté pédagogique dans votre démarche ?
Oui, certainement, mais... Disons, ça fait, oui, c'est une des composantes de ma démarche, mais l'essentiel reste avant tout de distraire, hein, simplement, de distraire, d'apporter un bon moment à celles et ceux qui me liront, quoi, C'est avant tout pour ça qu'on est là, je pense. Ce qui n'empêche pas, effectivement, de prendre son travail au sérieux et pourquoi pas, comme disait Céline, effectivement, de faire passer quelques messages ou du moins quelques rappels historiques. Moi, en tout cas, ce qui m'intéresse avant tout, c'est mon trip personnel, c'est de confronter des personnages historiques à des personnages fictifs. C'est ce que j'ai fait à l'époque avec mon vieux pote Olivier Perru quand nous co-écrivions Les Hauts Conteurs. C'est ce que je continue à faire avec les héritiers et ce que je continuerai à faire avec ma prochaine saga qui sortira en octobre, toujours chez Scrineo, qui cette fois traitera de l'Angleterre victorienne. Mais pour revenir aux héritiers, par exemple, dont les héritiers de l'Aube sont finalement, ils s'appellent comme ça parce qu'ils descendent de la caste des, ce que j'ai appelé moi, les primo-sorciers. Ce sont les premiers sorciers de l'humanité.
Ils sont déjà hauts en couleur, vos personnages ayant existé. Ils sont déjà tout un roman.
Ouais, totalement. Et les primo-sorciers sont donc des personnages historiques des personnages qui ont réellement existé. Dans le tome 1, on rencontre Nicolas Flamel, qui n'a rien à voir avec celui de Harry Potter. Dans le tome 2, c'est Rasputin. Et dans le tome 3, c'est le comte de Saint-Germain. Donc, je me suis beaucoup amusé personnellement. Alors, en particulier avec le personnage de Rasputin, je ne sais pas pourquoi. Ouais. Non, mais en fait, c'est pas une blague. Je sais vraiment pas pourquoi, parce que à la base, j'avais apporté la même dose d'amour à chacun de mes personnages. Quoi. Nos personnages, on les aime aussi. Et au départ, je me disais, bon, il n'y a pas de raison de préférer Saint-Germain à Flamel ou Rasputin, machin. Mais je me suis particulièrement éclaté avec le personnage de Rasputin. Alors, bien sûr, moi, je donne mon interprétation, bien sûr. C'est ma vision à moi de ces persos qui peut ne pas correspondre du tout à celle d'autres personnes, quoi. Mais...
Franck Seigneur, il y a pas des personnages forcément historiques dans votre roman, mais il y a des gens, donc il y a un contexte aussi relatif à la Seconde Guerre mondiale.
Oui.
Vous imaginez des personnages, certains, est-ce qu'ils ont existé ou est-ce que vous les construisez à partir de gens qui ont existé? Je pense qu'il y a des gens qui peuvent se reconnaître aussi dans... Parce que voilà, c'est le passé très sombre en fait de la France durant la Seconde Guerre mondiale. Il y a beaucoup à dire aussi dessus. Comment vous traitez ça, ces gens-là qui ont...
Alors j'ai pas mal de potes qui se retrouvent effectivement dans le roman, avec y compris les noms, les prénoms. Donc ça, ce sont des petits clins d'œil les plus sympathiques. Après, il y en a certains personnages avec lesquels sont aussi parfois des petits règlements de compte personnels, pour les moins sympathiques. Non, sinon, effectivement, il n'y a pas de... Moi, j'ai pris un arrière-plan historique. Hein, donc, il n'y a pas de personnage historique à proprement parler. Il y a des évocations. Donc, je parle de Général MacArthur, voilà, de gens comme ça. Mais il n'y a pas de personnage historique à proprement parler. Ce livre, et je réponds aussi un peu mieux à la précédente question que vous m'aviez posée, au niveau du code du polar, oui, effectivement, ça répond complètement au code du polar. C'est-à-dire qu'on démarre par une série de crimes qui sont perpétrés suivant le code d'honneur des samouraïs. C'est une enquête contemporaine, simplement, c'est un petit peu à la manière de la série Cold Case. Je dirais qu'on ouvre des archives et puis on remonte un peu le temps comme ça et on le remonte très loin, quoi. Voilà. Donc au niveau des personnages, pure invention. Un roman prend plusieurs années, enfin pour mon cas, à écrire. Durant ces années, on fait des rencontres. On rencontre des gens qui parfois nous marquent et puis qu'on dégueule, quoi, qu'on des noms. J'ai un personnage là qui s'appelle Valrof, et ben c'était le nom d'un fournisseur. Le jour où il m'a dit « Monsieur Valrof », j'ai dit « Putain, le nom, il claque bien ». Voilà, je le sentais bien pour un personnage. Et voilà ma source d'inspiration, c'est le quotidien. Et l'histoire, bien sûr, quoi, mais l'histoire est un arrière-plan. Voilà, c'est pas non plus du tout un... Voilà, c'est pas un livre d'histoire, hein, c'est un prétexte à raconter une histoire, quoi, une intrigue policière, mais un prétexte fort, quoi.
Sylène Edgar, pour en revenir à cette volonté pédagogique, il y a ça dans votre roman, il y a cette volonté de faire découvrir, etc. Mais vous-même, comment est-ce que vous avez travaillé donc cette époque très lointaine? Je suppose que sur Internet, pour le coup, on ne trouve pas tout ce qu'on voudra.
Par rapport à 1572, moi, Ça m'a beaucoup intéressée depuis longtemps, en fait. Adèle, c'est un roman que j'ai écrit, c'est mon troisième roman, mais je le publie en position 9, parce qu'il a une drôle d'histoire. Et en fait, si je parle de La Reine Margot, c'est parce que ma source première, c'est Dumas. L'adaptation que Chéreau en a fait au cinéma, La Princesse de Montpensier, et les écrits de l'époque. Moi, je m'appelle Silène en référence à Rabelais. Je suis nourrie de cette littérature. Donc, je n'ai pas fait autant de recherches historiques que, par exemple, sur 14-14, où là, je travaille sur Mademoiselle de Sévigné, je bouquine énormément. Parce que je me suis surtout nourrie des autres arts pour Adèle. Donc, et d'ailleurs, quand on a fait les corrections, la correctrice à un moment me dit, mais le nom de l'assassin de Coligny, c'est pas ça. Je dis, ouais, je sais, mais c'est pas grave, parce que moi, je cite Dumas. Donc, Dumas s'est trompé, je me trompe avec lui, puisque moi, je parle du livre de Dumas et non pas de l'histoire réelle. C'est moins un roman historique que 14-14, en fait. C'est surtout un roman sur la littérature et le cinéma. Voilà.
Vous avez des inspirations, vous aussi, donc littéraires, Céline, et cinématographiques dont...
Oui, évidemment. On se nourrit absolument de tout ce qu'on voit, de tout ce qu'on lit, de tout ce qu'on écoute, des gens qu'on croise. J'imagine pas qu'on puisse, aucun d'entre nous, je suppose, arrêtez-moi si je me trompe, dissocier à ce point nos inspirations, peut-être capable de les sectoriser. À mon avis, on est un tout. Comme le monde qui nous entoure. Donc forcément, on va puiser notre inspiration dans un tout, à mon avis, en tout cas. En tout cas, moi, c'est comme ça que ça marche. Donc oui, on va retrouver quelques petites touches, quelques clins d'œil, notamment à Jane Austen, surtout dans le premier tome. Et voilà,
pour
un blanc.
Le caractère bien trempé de votre héroïne, donc qui est, on n'a pas trop raconté l'histoire. Votre héroïne qui est une jeune femme, pas une jeune fille, parce qu'elle a déjà 28 ans, c'était un âge avancé.
Oui, une vieille fille pour l'époque. Une vieille fille pour l'époque. Elle était déjà considérée quasiment comme décrépite, donc il faut absolument la placer, si j'ose dire. En plus, elle est fille d'aristocrates anglais exilés, donc dans le contexte de la guerre de religion, c'est un peu délicat. Ses parents ont fui l'Angleterre élisabéthaine. Parce qu'ils étaient catholiques, et donc évidemment, voilà. Donc elle arrive en France où c'est plutôt les catholiques qui ont la haute main, enfin plus ou moins, puis Henri IV s'en mêle. Donc elle n'est pas vraiment en adéquation avec son époque. Elle est très avant-gardiste, mais comme il y en a eu plein, c'est loin d'être une exception, cette jeune femme, finalement. L'histoire était majoritairement, excusez-moi, écrite par des hommes. Et les chroniqueurs avaient tendance à passer un peu sous silence les femmes avec un peu plus de caractère. Mais en fait, il y en a eu beaucoup. On dit que derrière chaque grand homme, il y a une femme. Et moi, je pense que c'est vrai. Et en l'occurrence, c'est un esprit libre. C'est un esprit libre dans une vie étriquée. Et c'est très difficile pour elle de composer avec cette réalité. Elle essaye de s'en extraire en permanence. Et c'est ce qui l'amènera sur des chemins délicat. Et c'est comme ça qu'on versera dans le fantastique. Donc, puisque finalement, toute la première partie qui s'intéresse à elle pose le cadre historique et le contexte psychologique de cette femme qui n'est pas du tout en adéquation avec son époque.
Et donc un cadre historique, un contexte et surtout une psychologie très, très, très travaillée, comme on en voit rarement dans ce genre.
Merci. Merci beaucoup.
Vous avez beaucoup travaillé, alors vous avez beaucoup lu, vous avez beaucoup...
Oui, j'ai été, avant de plonger dans la documentation historique, j'ai été une grande lectrice, grande, grande lectrice, pour ne pas dire boulimique un peu de lecture. Donc bon, j'imagine que ça m'a aussi beaucoup nourrie. Après, quant à savoir si la psychologie des personnages est ou non poussée, je ne vais pas avoir l'outrecuidance de porter un jugement sur mon propre travail à ce niveau-là, mais en tout cas, je m'y investis beaucoup. J'ai côtoyé beaucoup de personnes avec des vécus très différents, et là encore, ça m'a nourri. Ça m'a appris aussi que la réalité a plus d'une couleur. Ça dépend de qui te regarde ou de qui tu regardes. À partir de là, et on est aussi le fruit de ce qu'on a vécu. On mélange tout ça, et voilà, c'est pour ça que le monde a une telle palette de nuances. Et c'est ce que j'essaye de retranscrire.
Et sur la psychologie en fait des personnages, enfin plutôt en fait le réalisme psychologique, est-ce que ça vous importe Est-ce que
oui,
vous tenez à ce que la psychologie de votre héroïne colle à la psychologie de l'époque?
Ah ben bien sûr, elle est issue de cette époque, quand bien même c'est un esprit libre, elle est forcément pétrie de ce qui l'entoure, elle a été éduquée comme ça. On est tous comme ça, de toute façon. Quand bien même on se construise en faux par rapport à ce qu'on a vécu ou qu'on y adhère, on en est le fruit, d'accord ou pas d'accord. Donc nécessairement, elle a une partie de ses réactions qui sont issues directement de l'éducation qu'elle a reçue et du poids de la société, puisque finalement, les codes sociétaux, aucun de nous n'y échappe. Quand bien même on essaye à toute force de le faire. Et c'est tout aussi valable pour l'époque. Donc oui, je me suis attachée à ce qu'elle soit à la fois très détachée de cette époque, puisqu'elle la rejette, et en même temps, finalement, pétrie de ses codes, puisqu'on en est tous là. J'ai fait de mon mieux, après je ne sais pas si ça marche.
Si, ça marche très bien. Votre voisin, vous avez choisi donc trois personnages issus d'époques différentes. Alors, est-ce que vous aussi, ça vous importe qu'ils soient en adéquation avec leur époque, ou est-ce qu'ils sont plutôt un reflet, chacun différent, des lecteurs d'aujourd'hui?
Non, je pense effectivement que la question ne se pose même pas. Ils ne peuvent qu'être le fruit de leur culture, de leur époque. C'est complètement vrai. Donc, il fonctionne. C'est pour ça que c'est intéressant également, entre autres intérêts, parce que on assiste à certaines confrontations, à certaines incompréhensions entre le geek qui est un garçon de 18 ans. Est-ce qu'il y a des garçons de 18 ans dans la salle? Non, j'en vois pas. Donc on peut épicier la part, on va pas les fâcher, on peut dire qu'en général un garçon c'est pas très malin, 18 ans c'est un peu relou tout ça, hein. Et oui. Et donc le personnage de l'Australien, il est pas encore très très fin. En plus lui, par rapport à ses petits camarades, il débarque avec ses certitudes, avec l'assurance de notre siècle, de notre 21e siècle, de tout connaître. Donc ça le rend sans doute un petit peu agaçant. C'est une démarche complètement volontaire de ma part. Alors que la jeune aristocrate Alba, l'aristocrate du XVIIe siècle, elle fonctionne avec les codes de son époque, avec les certitudes de son époque à elle, notamment religieuse et féodale. La brigande du XVIIIe siècle, pareil. Sauf qu'elle, c'est une rebelle. C'est le personnage sans doute le plus particulier, le plus marginal de l'époque, puisque c'est la seule qui, des quatre, qui a décidé de prendre en main réellement son destin. Elle ne subit rien, elle s'est rebellée, étant issue d'une famille de la moyenne bourgeoisie, son destin était tout tracé, puis hop, le contexte et les événements ont fait qu'elle a choisi d'opter pour une autre voie, une voie très difficile. Quant au petit anglais Tom, qui est un orphelin donc de l'East End, pour ceux qui ne verraient que vaguement ce que c'était le quartier, le secteur le plus pauvre de Londres, c'était l'Est londonien, où il y avait absolument tous les miséreux, les immigrés dépeints par Charles Dickens, c'est un petit peu le personnage de Charlot, finalement. Charlie Chaplin, Charlot, c'est ça, c'est l'Angleterre victorienne à traiter sous l'angle de la comédie, mais qui montre tout de même dans chacune de ses œuvres la terrible misère des mal lotis de l'époque. J'ai encore perdu de vue la question, je suis désolé.
C'est très bien. Est-ce que c'était quand même important qu'il y ait un des personnages qui soit le contemporain des lecteurs?
Oui, il me semblait, pour pouvoir mettre en exergue nos côtés, peut-être... Nos côtés un petit peu agaçants, tout
savoir un peu.
Oui, enfin, ou du moins croire, penser, avoir la certitude qu'on est au-dessus de tout, quoi, même quand bien même on n'aurait que 18 ans, quoi.
Puis les confronter, j'imagine, confronter des états d'esprit complètement différents avec des préoccupations.
Ouais, totalement. Quand par exemple Alex, donc le jeune geek. Se met en tête de séduire Laure, la brigande qui est évidemment très belle, il prend un râteau magistral. Dans le tome 1...
Il n'a pas les codes de l'époque.
Non. Et il insiste dans le tome 2, il prend un râteau encore plus lourd dans le tome 2. Puis après, il n'a pas l'occasion d'insister, je dirais, sans spoiler. Mais Donc oui, oui, c'est ça. C'est effectivement, on assiste à une confrontation. Alors bon, voilà, de temps en temps, j'essaie aussi, comme c'est un récit qui parle de démons, c'est tout de même assez sombre parfois, j'essaie d'incorporer quelques petites notes d'humour, notamment entre dans ces confrontations, notamment avec les relations que peuvent nouer les personnages entre eux, donc Laure, Alex ou Tom également, mais c'est surtout Laure et Alex, quoi.
Et on peut parler de volonté de choc des cultures, de les faire réagir.
Oui, 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 complètement, c'est ça, c'est un choc culturel, c'est ça, totalement. C'est ce qui m'a, à la base, quand je commençais à penser, à concevoir cette série, c'est ça qui m'a intéressé, avant tout.
Franck Seigneur, il y a ça aussi dans votre livre, en fait, ce choc entre deux cultures.
Ah oui, complètement, oui. On a... C'est le raffinement japonais qui vient se heurter, j'irais, au terroir profond vosgien. Mais j'aime le terroir vosgien. Et non, mais c'est vrai que on a en fait là-dedans, c'est la grande histoire qui bute sur des petites histoires, quoi. C'est-à-dire que il y a une organisation japonaise très puissante qui là pour le coup a existé et qui découle directement de la famille impériale, qui s'est heurté à la cupidité d'une poignée de Vosgiens pure souche. Et c'est ce qui est intéressant, c'est ça, quoi. C'est une grosse organisation, une grosse machine qui bute sur un tout petit truc et qui se retrouve piégée là, dans une forêt vosgienne quelque part. Et puis bon, ce parallèle, je le fais de plusieurs manières. Il y a notamment, à un moment, je décris, j'ai un personnage qui participe à une cérémonie du thé, donc telle que les pratiquaient les samouraïs, parce que les samouraïs, c'est ça, c'est aussi ce que j'aime, moi, là, dans cette culture japonaise, c'est les paradoxes, entre raffinement et cruauté. Donc, un samouraï, c'était quelqu'un de très érudit, c'était une caste très, très respectée. Donc, c'était des combattants qui devaient maîtriser environ 18 arts martiaux, qui devaient savoir manier à peu près 40 armes différentes. Mais qui devait aussi maîtriser la calligraphie, la poésie, le shanoyu, donc la cérémonie du thé, etc. Et c'est des types qui pouvaient être effectivement dans une salle de thé en train de disserter sur la qualité d'un breuvage, tout en faisant de la calligraphie. Et puis 2 heures après, à tour de bras, ils allaient trancher des têtes, quoi. Et donc j'ai confronté, oui, ça dans le roman. Par exemple, à un moment, je fais un petit parallèle entre cette cérémonie du thé qui dure un certain temps, parce que c'est très long, hein, une cérémonie du thé, et puis le petit noir, le petit café noir qu'on se tape au bord du zinc en 2 minutes, quoi. Voilà, donc c'est oui, ça a eu lieu.
Silène Edgar, vous aussi, dans votre roman, il y a cette idée-là de cruauté d'un côté et de raffinement, que ce soit dans les vêtements, dans la danse, dans tout ce genre de choses. Ce choc-là, d'une part, et aussi celui de cette jeune fille d'aujourd'hui qui, en rêve, donc, va voyager dans ce siècle lointain. Et finalement, elle va un peu se rendre compte, j'ai l'impression, qu'elle n'est pas si loin que ça, finalement, de cette cour royale, que surtout qu'ils ne sont pas si vieux que ça, en fait.
Ouais, c'était vraiment une des choses importantes que je voulais faire, c'était montrer que Margot, Guise, le roi lui-même étaient des jeunes gens qui avaient 15-20 ans, hein, et qui donc se retrouvaient dans ces intrigues de cour, des histoires de coucherie, les uns avec les autres, des amants qui changent, etc. On pense... La jeune Charlotte de Sauve qui devait séduire Henri de Navarre sur les ordres de Catherine de Médicis, c'était une jeunette. Catherine de Médicis, elle envoyait des jeunes filles qui pour nous sont des ados. Mais voilà, à cette époque-là, à 16 ans, on n'était plus seulement une ado. Et c'est quelque chose qui m'avait beaucoup frappée dans le film de Tavernier, dans La princesse de Montpensier, donc qui reprend une nouvelle de Lafayette. Il montre très bien la façon dont cette jeune Montpensier, avec ses idéaux, elle a envie d'épouser son amoureux d'enfance, se retrouve en fait mariée de force, comme c'était le cas pour toutes les jeunes filles de toute façon, et avec quelqu'un qui lui plaît pas spécialement. Et c'est très très beau, je trouve, ces moments-là où nous, spectateurs du 21e ou lecteurs du 21e, on va toucher du doigt un petit peu à cette fragilité grâce au film ou au livre pour se rendre compte que malgré tout, 15 ans en 1572 ou 15 ans aujourd'hui, même s'il y a d'énormes différences, on reste fragile, jeune, inexpérimenté et de fait bouleversé par des événements qui nous dépassent quand ils arrivent. Et Adèle, quand elle arrive dans son rêve, toute heureuse, avec cette belle robe, un petit peu princesse, elle se retrouve face à sa mère de rêve, qui lui dit crûment, bon bah voilà ma fille, t'es sortie du couvent, on va te marier maintenant. Et puis elle qui se plaint de sa mère tout le temps, elle se dit, bon, celle-là elle est encore moins bien finalement. Alors il n'y a pas de volonté moraliste, hein, c'est pas l'objectif, c'est juste de mettre les choses un petit peu en perspective. Et cette comparaison, c'est l'attrait principal pour moi de la part historique dans ce roman, qui n'est donc pas un roman historique, mais qui se sert, comme pour toi, hein, de l'histoire comme un contrepoint. C'est beaucoup moins historique que donc 1414 ou Le Manoir en folie que j'ai fait aussi, qu'un roman pour ados purement historique.
Des contrepoints, mais est-ce qu'il y a aussi des parallèles, en fait, à tous un peu, c'est une question un peu à tous. Est-ce que dans vos romans, aux époques différentes et souvent éloignées, vous avez envie que le lecteur fasse des parallèles avec la nôtre, avec toute notre époque à nous ?
Juste, par rapport à ça, moi, quelque chose qui m'importe, c'est j'ai remis l'appendicite. Alors, c'est une erreur historique, volontaire. La première appendicectomie n'a absolument pas eu lieu au XVIe siècle sous les mains d'Ambroise Paré. Donc, je triche avec l'histoire, puisqu'il a fallu attendre encore un siècle pour qu'ils en fassent une par hasard et trois siècles pour qu'ils se mettent à le faire régulièrement pour éviter que les gens meurent. C'est pas pour rien, c'est parce que je voulais montrer que le rapport au corps. Qui a changé, bien sûr, pour nous énormément, puisqu'on connaît nos corps, on sait ce qu'il y a à l'intérieur, contrairement à l'époque. Pour autant, le rapport au corps des adolescents aujourd'hui, par rapport au rapport au corps de l'époque, eh ben, il ne me semble pas si éloigné que ça. Et c'était quelque chose d'important comme parallèle à faire. Je trouve Adèle, elle se découvre. Et avec cette première appendicectomie, elle découvre aussi l'intérieur.
Des parallèles avec l'époque actuelle, si je ne désigne pas, ils ne répondent pas. Ils ne sont pas vraiment... Oui, c'est pas bien.
Non, moi, sans plus. C'est pas... C'est, disons, établir des parallèles n'est pas ce qui me préoccupe en premier lieu. Ce qui m'amuse... Disons, parce que là, pour le coup, ce n'est pas une préoccupation, mais ce qui m'amuse avant tout, c'est de mélanger une aventure, l'aventure et l'histoire. Quoi. C'est avant tout ça. Alors après, effectivement, il y a des périodes historiques qui m'intéressent particulièrement, donc j'ai tendance à aller vers celle-ci, bien sûr. Mais en tant que lecteur, je peux avoir des goûts très, très diversifiés. Mais en tant qu'auteur, en revanche... Je n'éprouve pas l'envie de partir vers des royaumes imaginaires dans ce qu'on appelle la fantasy. Ça rejoint un petit peu tout à l'heure le mini-débat qu'on a eu avec la Bitlit. Le terme fantasy, actuellement, il regroupe un éventail hyper large. Moi, je n'ai pas l'impression de décrire de la fantasy. J'écris du fantastique ou alors de la fantasy historique, mais... Bon, voilà, c'est ce qui m'intéresse avant tout, c'est encore une fois camper un cadre réel, une époque, un temps réel, parce que l'histoire humaine, elle est d'une richesse monumentale, quoi. Donc voilà, j'éprouve pas l'envie de partir, je sais pas, pour le royaume des deux lunes, mais encore une fois, en tant que lecteur, ça peut me faire kiffer aussi.
Moi, je ne parlerai pas de parallèle, mais c'est une manière d'ouvrir les yeux sur l'histoire, parce que l'histoire, elle se construit tous les jours, quoi, en fait. Et quand je rencontre des scolaires, notamment, Bon, c'est intéressant. Je souligne le fait que ces Japonais qui sont venus se battre ici, donc libérer leurs grands-parents peut-être, c'était pour certains des jeunes de 17 ans, quoi, hein, donc qui avaient quasiment le même âge. Donc je leur dis, si il y a 5 minutes de vous mettre à leur place, du jour au lendemain, on vous spolie tous vos biens, on vous met dans des camps d'internement. Et puis on vous dit, ben maintenant mon coco, si tu veux être américain, donc il va falloir aller te battre en Europe pour des gens que tu ne connais pas, dans des régions que tu ne connais pas. Il y en a qui ont quitté, je dirais, les plages de, je vais schématiser, les plages d'Hawaï. Et quelques mois plus tard, ils étaient la nuit sous les neiges, dans les neiges vosgiennes, en pleine boue, etc. Donc ça a été un choc terrible pour ces gens-là. Et qui avait un sens du sacrifice très développé et que je ne retrouve pas. De toute façon, c'est impossible. Je veux dire, chez les jeunes d'aujourd'hui, quand on leur demande, tu le ferais, ils regardent tous avec des yeux comme ça. Voilà. Et puis, moi, il y a une phrase que j'aime bien, c'est, je ne sais plus si c'est Primo Levi, ou c'est qui oublie son histoire est condamné à la revivre. Marx. C'est Marx. Bon, alors allons-y pour Marx. Et donc, voilà, qui oublie l'histoire est condamné à la revivre. Et c'est vrai, je dirais, et on oublie très rapidement les épisodes de l'histoire. Et là, en ce moment, il y a des choses qui se déroulent sous nos yeux. Et je sors du cadre du bouquin, bien sûr. Mais par exemple, ce que font les troupes de Daesh, quoi. Donc quand on voit qu'ils massacrent les populations, bien sûr, des sites historiques, des œuvres d'art. Ben, c'est exactement ce qui s'est passé en 1933, quand les troupes hitlériennes naissantes, enfin de 1933 à 1938, pratiquaient des autodafés, donc de livres, déclaraient des œuvres d'art, art dégénéré. Voilà. Donc, quand on veut pratiquer un génocide, ben on commence par détruire sa culture. Donc, on a vu ça dans les années 30-40. Ben, attention à ne pas avoir la même inaction qu'à l'époque, quoi. Quand on avait les Daladier, Chamberlain qui revenaient d'Allemagne, tout contents d'avoir signé quelques papelards avec Hitler, pensant que ils seraient protégés avec simplement ces quelques documents. On voit ce que ça a donné par la suite. Donc voilà, ces livres-là permettent pour vis-à-vis d'un public plus jeune de s'intéresser, de s'ouvrir à l'histoire, et puis après, ben, peut-être aussi d'aller vers l'histoire avec un grand H. Voilà.
Messieurs, dames, nous ne sommes pas dans un café littéraire, vous pouvez poser des questions. C'est formidable. on a droit de poser des questions. Est-ce que vous avez des questions à poser? On peut vous faire venir un micro si vous avez une grande voix. Oui? Non? Ne soyez pas timide. Regardez, je sors vivante de l'épreuve.
Même des questions qui veulent rien dire, juste pour qu'on ait l'impression d'être des stars. Allez-y. Demandez-nous s'il a plu tout à l'heure, on vous répondra.
Oui? Non? Oui, allez-y.
Pour l'intégrer dans vos romans et quoi du coup ça me stresse de parler avec un micro.
Chante si tu veux.
Du coup je sais plus ce que je disais.
Donc comment vous avez su
quoi garder dans votre roman et quoi garder pour votre roman et quoi écarter, et du coup aussi est-ce que vous avez décidé de l'écrire dans un contexte historique et du coup vous êtes allé chercher les informations? Ou alors vous avez commencé à écrire votre histoire et vous êtes dit, ah ben, non, c'est pas
non.
Enfin,
non. Ouais. Ouais.
Vous voyez ce que je veux dire, dans quel sens vous l'avez fait?
En fait, c'est un petit peu l'inverse, c'est-à-dire qu'au départ, tu sais où tu veux aller, tu sais très bien vers quelle base, vers quel sujet tu te diriges, et donc tu vas chercher une documentation. Exactement. Tout de suite identifiée, vraiment, quoi. Donc tu ne perds pas de temps à faire un tri. C'est pas la documentation qui va influencer ton œuvre, c'est le voilà.
D'accord, c'est parce que vous aviez besoin de l'information que vous êtes allé la chercher.
Je parle pour moi.
Souvent c'est comme toi. J'ai une idée, je me dis si je parle de ça, ça va être intéressant pour faire comprendre ce que j'ai envie de faire, ça va dans mon intrigue, et donc je fais des recherches spécifiquement sur ce point-là. Mais quand je vais lire un ouvrage plus général, il peut y avoir justement une surprise, quelque chose. Je me dis, ah, mais en fait, ça, c'est génial. Je vais pouvoir le reprendre, le remettre, et il y a une idée de scène qui va apparaître.
Oui,
voilà. Mais en fait, là, c'est vraiment le travail de l'écrivain qui n'est pas historien. C'est que toute cette documentation, voilà, elle nous nourrit. Et puis, à un moment, on a cette intrigue, ça va se construire. Et c'est là qu'on va vérifier les petites choses. On ne sait pas tout, loin de là, sur les époques qu'on traite. Parce que ce qui prime, ça va être l'intrigue, je pense.
Globalement, c'est vrai que tu sais où tu vas. Tu vas chercher une doc parce que tu as besoin de quelque chose de précis. Et effectivement, en effectuant cette recherche précise, tu peux tomber sur des trucs imprévus qui vont venir enrichir, te donner des idées nouvelles, des idées neuves peut-être, et te permettre d'enrichir ton récit.
Bien, il me reste à vous remercier.
Je crois que le monsieur avait une question, non ?
C'est vrai, allez-y, allez, pardon.
Pas spécialement, mais je peux en profiter. J'ai le micro dans la main.
C'est pour ça qu'il disait ça, du coup.
Ce qui revenait souvent au début de la conférence, c'était le fait que vous ne vouliez pas vous faire prendre à défaut par un historien qui vienne vous voir en vous disant que ça ne s'est pas passé comme ça. Est-ce qu'à l'inverse, il y a des personnes qui sont venues vous dire « J'ai bien aimé la façon dont vous avez approché le sujet et surtout, ça retranscrit bien ce que... »
Oui, heureusement, ça arrive. C'est pour ça qu'on effectue un travail de documentation. Merci. C'est pour ça qu'on effectue un travail de documentation très poussé. C'est justement dans l'espoir que des gens s'aperçoivent du travail, du sérieux et l'apprécient, quoi. Et heureusement, oui, ça arrive souvent que des gens viennent nous dire. Tout le bien qu'ils ont pensé de cette démarche. L'inverse, non. Moi, de toute façon, si un type arrive et me dit « Monsieur, ça ne s'est pas passé comme ça, je le bute. »
Moi, ça me fait penser à quelque chose que je trouve absolument génial, c'est qu'il y a des archéologues qui travaillent et qui refont des choses pour essayer de comprendre comment ça marche. Donc, par exemple, ils vont refaire le moulin pour voir comment ça fonctionne. Il y a un docteur en France des meules de moulins, par exemple, et ils font des batailles pour voir si les Gaulois pouvaient vraiment se battre avec des vêtements comme ça, et après ils vont les refaire un petit peu et d'un point de vue historique, en fait, ils testent. Je trouve ça merveilleux. Et nous, en littérature, ce que j'adore, c'est qu'on a cette possibilité de mettre les personnages dans plein de situations que les historiens n'ont pas forcément imaginées parce qu'ils n'ont pas de matière, parce qu'il y a des choses qui se racontent pas. Dans les chroniques, du coup, des fois, on va leur poser des questions, on va imaginer des solutions qui semblent à peu près logiques d'après tout ce qu'on a trouvé, à des questions qui en fait n'ont jamais été posées parce que tout le monde s'en fiche de savoir si, je sais pas, ils mangeaient comme ça ou si. Et puis nous, dans le roman, par contre, ça va être important. Alors là, quand il y a un historien qui vient, qui dit, mais ouais, en fait, c'était pas mal trouvé, c'est génial.
Voilà, il faut qu'on passe au débat suivant. Je vous remercie beaucoup pour vos réponses.
Merci à toutes et à tous. Merci. Et puis, ben voilà, bon salon, amusez-vous un max. Merci.